Bonjour à tous. Nous avons vu dans les chapitres précédents, les trois précédents chapitres, qu'il n'y a pas un seul juste, pas même un seul. Nous lisons en 1:18, « La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute injustice des hommes qui par leur injustice tiennent la vérité prisonnière. » Ils sont donc inexcusables, chapitre 1, verset 20. Ils commettent des actes indignes, 1:18. Ils sont donc inexcusables. Ils sont remplis de toutes sortes d'injustices, 1:29. Toi qui juges, tu es donc inexcusable, 2:1. Il réserve sa colère à ceux qui obéissent à l'injustice, 2:8. Il n'y a pas de juste, pas même un seul, 3:10. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu, 3:23. Pas un seul juste. Imaginez un instant, si nous avions un compte bancaire de la justice et que maintenant nous sortions nos smartphones pour en consulter le solde, que verrions-nous ? Est-ce que nous serions dans le vert ? Ou est-ce que nous serions dans le rouge ? Sur le compte de la justice, qu'aurions-nous sur notre compte bancaire ? Nous serions très certainement comme Gabriel March Granados. Ce facteur espagnol de 22 ans fut condamné le 11 mars 1972 à 384 912 années de prison. Pour ne pas avoir distribué son courrier pendant plusieurs années. Au total, il est accusé d'avoir gardé pour lui près de 42 768 lettres, soit un ratio de 9 ans de prison par lettre. Devant Dieu, la peine sur notre compte de la justice est aussi imposant que cela. L'injustice la plus totale. Pas même un seul juste, pas même un seul. C'est notre statut devant Dieu. Sans Dieu, nous sommes complètement dans le rouge. Mais nous avons vu la semaine passée que nous sommes complètement déclarés justes par la foi. Il y a un moyen de passer dans le vert. Et le seul moyen, c'est la foi. Mais si c'est par la foi, la bonne question à se poser, alors c'est, mais qu'est-ce que la foi ? Et on peut croire que l'on sait ce que c'est, mais la réponse n'est pas si évidente. Nous voyons dans ce texte des réponses à des chrétiens d'origine juive et non-juive qui étaient un peu perdus. Et nous pouvons imaginer facilement la réponse des chrétiens juifs. Ils disaient, mais alors, que faisons-nous de la loi de Dieu, si maintenant c'est la foi ? Est-ce que toute la loi, ces 2000 ans, la loi que nous avons reçue de Dieu même, faut-il la jeter à la poubelle ? Que faisons-nous de la circoncision que notre ancêtre Abraham a reçue ? Est-ce que vraiment ce n'est que la foi ? Est-ce que ce n'est que la foi seule ? Et toute la loi, ces 2000 années données, l'Ancien Testament, que faisons-nous de tout ça ? C'était même si perturbant que des non-juifs, comme vous et moi, étaient tentés de reprendre la loi et de suivre la loi et de la rajouter à la foi. Et nous sommes tentés de nous mélanger les pinceaux, aujourd'hui. Sans même nous en rendre compte, nous pouvons glisser vers quelque chose qui n'est plus vraiment de la foi, tout en continuant à dire « j'ai la foi ». Alors ce matin, dans ce chapitre 4, c'est l'occasion de clarifier qu'est-ce que vraiment cette foi qui nous permet d'être juste et de ce compte sur lequel est portée toute notre injustice de passer du rouge au vert. Nous pouvons nous poser la question ce matin, comment va ma foi ? Est-ce que ma foi est complètement correcte ou y ai-je ajouté quelque chose ? C'est la question que j'aimerais que vous puissiez vous poser ce matin avec moi. Paul développe dans ce texte du chapitre 4 la phrase abordée la semaine dernière, la justice de Dieu dont témoignent la loi et les prophètes, 3 verset 21, et il appuie sur la loi et les prophètes, l'Ancien Testament, il appuie et il explique ce qu'est la foi. Et nous allons voir quatre éléments que la foi n'est pas dans ce passage. Pour souligner la chose la plus importante et la vérité la plus grandiose pour nous-mêmes, c'est que malgré le fait que nous soyons totalement injustes, nous pouvons être justifiés par la foi seule. Nous n'avons rien d'autre à faire. Premier élément que nous voyons dans ce texte. Depuis Abraham, déjà, la foi ne veut pas dire faire des bonnes actions. La foi ne veut pas dire faire des bonnes actions. Nous lisons dans Genèse 12 à 25 l'histoire d'Abraham, cet homme qui a été appelé de Dieu à tout quitter pour Dieu. Et avec son épouse, il prenait de l'âge, mais il n'avait toujours pas d'enfant. Et Dieu lui avait promis de faire de lui une descendance, mais toujours pas d'enfant. Il avait promis de faire de lui une bénédiction pour toutes les nations, toujours pas d'enfant. Et de donner à sa descendance un pays promis, toujours pas d'enfant. Et pour les Juifs de l'époque, la vie d'Abraham, ses actions, son courage, sa foi était un exemple incomparable. Incomparable. Mais nous voyons dans ce texte que Paul dit clairement qu'Abraham n'a pas été juste à cause de tout ce qu'il avait fait, il a été uniquement déclaré juste sur la base de sa foi. Nous lisons au verset 3. En effet, que dit l'Écriture ? Abraham eut confiance en Dieu et cela lui a été compté comme justice. C'est uniquement la confiance. Rien de ce que Abraham n'a fait ne lui a été compté comme justice. N'a permis à ce que son compte passe du vert au rouge. Mais parfois, nous avons ce réflexe, nous aussi dans nos relations, de compenser l'injustice les uns avec les autres. Je me rappelle que il n'y a pas si longtemps que ça, c'était en décembre, j'avais pris rendez-vous avec quelqu'un pour aller manger et on s'était rendez-vous dans la rue pour aller manger au restaurant et on avait rendez-vous à une certaine heure et puis je vois ma montre, 10 minutes, 20 minutes, 30 minutes, 40 minutes, 50 minutes, 1 heure. La personne n'était toujours pas là. Bon, au final, la personne est finie par arriver sans trop s'excuser. Mais elle se sentait quand même un peu mal. Et alors, elle voulait absolument tout faire pour essayer de corriger, de faire justice, de mettre les choses à plat pour que je puisse lui pardonner. Et peut-être que vous faites un peu la même chose aussi si jamais vous mettez en porte-à-faux vis-à-vis de votre cher et tendre. Peut-être que la chose que vous avez à faire, c'est d'aller acheter des fleurs pour lui dire, voilà, j'ai fait une erreur, je reconnais, voilà. On essaie quelque part de remettre les compteurs à zéro. Mais si on fait ça quelque part, on a de quoi se montrer fier. C'est comme mon salaire, ma rétribution, pour mon effort. J'ai acheté des fleurs, j'ai payé le restaurant, j'ai fait cela. Donc c'est quelque part normal que tu me pardonnes, n'est-ce pas ? Après tout, j'ai fait tout ça, c'est normal. Et c'est ce que nous dit Paul ici. Que si quelqu'un fait quelque chose, le salaire lui est donné. Si vous travaillez et que vous attendez à toucher un salaire, si vous n'avez pas de salaire à la fin du mois, vous allez appeler votre patron et vous allez vous plaindre. Et bien, c'est la même chose. Nous lisons au verset 4, « Si quelqu'un accomplit quelque chose, le salaire est porté à son compte, non comme une grâce, mais comme un dû. Par contre, si quelqu'un ne fait rien, mais croit en celui qui déclare juste l'impie, sa foi lui est comptée comme justice. » Devant Dieu, tout ce que nous pouvons faire pour essayer de nous mettre à... pour remettre les comptes à zéro devant lui, ça ne marche pas. Aucune bonne action ne peut rattraper nos horribles bêtises. On ne peut pas exiger quoi que ce soit de lui comme salaire. Dieu ne nous doit rien. Peu importe ce que nous faisions, Dieu ne nous doit rien. Il ne peut pas être en dette vis-à-vis de nous. Dieu est un Dieu de grâce. Pensons un peu à notre dette devant Dieu, les amis. Nous avons vu pas cela, juste le compte est dans le rouge. Nous ne pouvons rien faire pour remettre ce compte à zéro, rien du tout. Nous ne pouvons rien exiger de Dieu. Mais Dieu nous fait la grâce. Dieu nous fait la grâce de nous donner librement. Par contre, si quelqu'un ne fait rien mais croit en celui qui déclare juste l'impie, sa foi lui est comptée comme justice. Le compte est dans le vert. C'est une sorte de grâce présidentielle. Et quelle joie ! Après avoir donné l'exemple d'Abraham, Paul donne l'exemple de David. Et c'était une méthode d'argumentation bien connue. Après avoir cité le Pentateuque, les 5 premiers livres de l'Ancien Testament, il situait les prophètes, le reste de l'Ancien Testament, pour prouver que tout cela était déjà là, dans la loi. La loi et les prophètes. Et donc il cite David, qui lui aussi utilise le même mot, porté à son compte. Verset 6, de même David exprime le bonheur de l'homme à qui Dieu attribue la justice sans les œuvres. Heureux ceux dont les fautes sont pardonnées et dont les péchés sont couverts. Heureux l'homme à qui le Seigneur ne tient pas compte de son péché. C'est une joie soudaine. Toute notre injustice est soudainement, en un instant, enlevée. La faute est enlevée. Elle n'est pas comptée. C'est exactement comme la grâce présidentielle que Emmanuel Macron, la première qu'il a donnée en 2018, c'était à une détenue de 73 ans qui était en prison depuis 30 ans pour un homicide. Et du jour au lendemain, alors qu'elle devait encore rester en prison pour la fin de sa vie, Dieu l'a acquittée. Macron l'a acquittée. Mais Dieu, c'est ce que Dieu fait avec nous. En un instant, la faute est effacée, couverte, enlevée. Et David dit, quel bonheur, j'imagine, la joie de cette dame qui tout d'un coup a pu sortir de prison. Et toute sa faute n'était plus là pour la fin de la peine, n'a pas eu à être exécutée jusqu'au bout. Et c'est exactement la même chose. En un instant, notre compte passe du rouge au vert, la justice. Le fait que nous soyons justes devant Dieu ne dépend pas de ce que nous faisons, en aucun cas, mais uniquement de ce que dit Dieu, nous le croyons. Que ce soit Abraham, que ce soit le roi David, que ce soit le brigand sur la croix, que ce soit Paul, tous ont le même statut légal. Ils sont justes. Mais leurs œuvres sont bien différentes. L'œuvre n'a rien à faire là-dedans. Quand nous venons chrétiens, parfois on hésite avant de devenir chrétien, on se dit « mais je suis pas encore assez prêt, et je devrais être meilleur que ça ». Ou parfois, quand on est chrétien, on dit « non, il faut que je progresse », comme si ça pouvait vraiment changer le point de vue que Dieu a sur nous vis-à-vis de notre justification. Mais ce que nous dit ce texte, c'est qu'aucune de nos actions ne peut changer notre niveau de justification. Il est écrit « Dieu déclare juste l'impie ». Nous n'avons pas besoin d'essayer d'être meilleur pour donner notre vie à Dieu. Nous ne pouvons pas nous changer nous-mêmes. Nos actions ne peuvent nous préparer à donner notre vie à Dieu. Nous avons juste à croire, à avoir confiance, aucune œuvre. Et alors nous chantons avec David, quel bonheur, grâce infinie, combien de nos chants chantent le bonheur de celui dont les péchés ne sont pas comptés, dont les péchés sont couverts, les fautes sont pardonnées. Celui dont Dieu ne tient pas compte de son péché. Mon frère, ma sœur, Dieu ne tient pas compte de ton péché sans que tu n'aies rien à faire. Rien à faire. Quel bonheur. Et c'est la première chose qu'est la foi. Depuis Abraham, depuis déjà à ce moment-là, la foi, c'est de ne donc pas dire faire des actions. Deuxième élément que nous voyons dans ce texte, c'est à partir du verset 9. Depuis Abraham, la foi ne veut pas dire avoir une religion. La justification, être juste devant Dieu, ça ne dépend pas d'une cérémonie religieuse ou de quelque chose qu'on ait fait. Et messieurs, c'est une bonne nouvelle. Imaginez un instant que vous viviez il y a 200 ans avant la venue de Jésus et que vous ayez été touché par l'exemple du peuple d'Israël. Et vous désirez, vous croyez que Yahvé est le seul vrai Dieu et vous voulez rejoindre le peuple d'Israël. Alors vous allez trouver un rabbin et vous lui demandez comment vous pouvez rejoindre le peuple d'Israël. Et la réponse qu'il vous donnera certainement, vous vous circoncirez, si on traduit littéralement, vous serez coupé avec la chair de votre prépuce. Et ce sera un signe d'alliance entre moi et vous. Paul demande au verset 9, ce bonheur n'est-il que pour les circoncis ? Si nous voulions faire partie du peuple de Dieu, moi, comme tous les hommes ici présents, la circoncision était donnée par Dieu pour tout homme qui voulait faire partie de son peuple. Et à l'époque, c'était un sacré obstacle, physique et douloureux. Et dans les faits, il n'y avait pas tant de monde que ça qui pouvait réellement rentrer, qui faisait le pas physique pour rentrer dans le peuple de Dieu. Et c'est pourquoi les Juifs étaient très fiers de leur circoncision. Ils surnommaient d'ailleurs les non-Juifs par rapport à ça. Ils les surnommaient comment ? Les incirconcis. Nous disons dans Éphésiens 2:11, c'est pourquoi souvenez-vous qu'autrefois vous étiez identifiés comme non-juifs dans votre corps, appelés incirconcis. Les Juifs étaient fiers. Je suis un circoncis. C'était le signe donné par Dieu pour appartenir à son peuple. Et devant les hommes et devant Dieu, ils étaient fiers de leur circoncision. Mais en réalité, Paul nous dit, que la circoncision n'est venue qu'après. Abraham a cru et était déclaré 29 années avant sa circoncision. Et la justice qu'il a eue était bien avant sa circoncision. Alors, tous les incirconcis, les hommes et les femmes ici présents, comme Abraham, nous pouvons faire partie du peuple de Dieu, sans avoir à passer sur le bilo, sans avoir à passer par la salle d'opération. Et ça, c'est une bonne nouvelle. Mais nous voyons dans cet exemple des non-juifs le danger de mettre sa fierté dans sa position. Comme les non-juifs, nous pouvons être tentés d'être fiers de notre identité religieuse, acquis personnel, se contenter de sa circoncision ou de son baptême. Est-ce que nous ne serons pas tentés parfois de dire « Je sais que je suis juste devant Dieu, regarde !» et nous commençons à étaler tout le pédigré chrétien que nous pourrions avoir. Je viens à l'église tous les dimanches, je paye ma dîme, je suis baptisé, mes enfants sont engagés également à l'école du dimanche. Je fais la louange, je prêche à l'église, je suis parti en mission. Ne soyons pas trop sûrs de nous. Est-ce que ces choses nous procurent de la fierté? Comme nous l'avons vu la semaine dernière, la seule chose dont nous pouvons être fiers, c'est la croix de Christ. Si nous sommes fiers de ce que nous faisons dans l'Église, de ce que nous sommes dans l'Église, notre identité, notre service, réfléchissons bien. Faisons attention. Aucune justice n'est acquise de cette manière-là. Si nous nous confions dans notre identité, dans notre religion et tous les actes de religion qui y conviennent, qui y sont associés, notre compte de la justice reste dans le rouge. Une autre chose que nous voyons ici, c'est que la rupture entre les juifs et les non-juifs est totalement disparue. Et Dieu ouvre à son église, à toutes les nations, à tous les peuples, à toutes les cultures, pour qu'ils puissent y entrer. Quand j'ai fait mes études à Genève, on nous encourageait à chercher une église pour l'année. Et au début de l'année, les étudiants faisaient un peu le tour des églises de Genève, quelques églises partenaires, pour essayer de trouver celle qui leur conviendrait pour l'année. Et il y avait une rue, je me rappelle, où il se trouvait certainement à porte une dizaine d'églises. Alors il y en avait une hispanique, une asiatique, une plus pour les jeunes type Hillsong, une plus traditionnelle, une dizaine d'églises. Et on voit dans tout ça que nous avons beaucoup plus de facilité à nous réunir avec les personnes qui nous ressemblent. Et on voit très facilement les avantages. On se réunit aujourd'hui plus avec les francophones qu'avec les chinois parce qu'on n'utilise pas la même langue pour communiquer. Mais Paul souligne le fait ici qu'il n'y a pas de différence entre nous tous. Aucune différence. Nous ne devons pas faire les fiers pensant qu'une culture vaut mieux qu'une autre, mais aimer son frère et sa sœur, peu importe son identité. Et les chrétiens de Juifs et de Rome auraient très bien pu se diviser, faire une église avec les non-juifs, une église avec les chrétiens d'origine juive, et être dans deux églises différentes. Ils auraient très bien pu faire ça. Et dans leur église, il y avait des disputes, des dissensions, des comparaisons par rapport à la loi, par rapport à ces questions-là. Je crois que le désir de Dieu, c'est ce que Paul nous encourage aussi à faire ici, c'est que dans son église, toutes nos expressions rendent gloire à Dieu ensemble, peu importe notre arrière-plan culturel, peu importe notre langue. Et au contraire, de se séparer de plus en plus, dans une unité de plus en plus petite, nous rapprocher pour être toujours plus proches. Voyons donc que la foi à laquelle nous adhérons, c'est avant tout quelque chose qui n'a rien à voir avec les actions, qui n'a rien à voir avec une religion, comme sous le terme péjoratif. Et Paul enracine cette vérité dans la partie suivante, à partir du verset 13. Il nous dit que ce n'est ni par les actions, ni par la position, car la promesse de recevoir le monde en héritage n'a pas été faite par la loi. Verset 13. Et nous voyons dans ce troisième aspect de ce que la foi n'est pas, la foi ne veut pas dire suivre des régulations. Lisons versets 13 et 14. En effet, ce n'est pas par la loi que la promesse de recevoir le monde en héritage a été faite à Abraham ou à ses descendants, mais c'est par la justice de la foi. Car si l'on devient héritier par la loi, la foi est dépourvue de sens et la promesse sans effet. Autrement dit, la promesse n'a pas été faite qu'à condition qu'Abraham fasse quelque chose, ou sa descendance, pas à condition qu'il fasse des règles, mais uniquement parce qu'ils ont cru, ils ont eu confiance. Ce verset 13 à 14 m'a donné un peu de fil à retordre dans la compréhension. Si un ami vient me voir et me dit « Si tu viens à la banque maintenant, tu deviendras l'héritier de tous mes biens. » Et cet ami est très très riche. Autrement dit, c'est le jackpot pour moi. Alors, il me fait une promesse. « Viens avec moi, tu auras mon héritage. » Si j'ai confiance en cet ami, je vais le suivre, si je le crois. Et s'il est digne de confiance, il tiendra sa promesse et je deviendrai héritier. Je deviens héritier par la promesse qu'il me fait. Imaginez maintenant que sur le chemin vers la banque, il commence à expliquer quelques règles qui se trouveront sur le contrat. Je ne devrais pas utiliser cet argent pour faire de la contrebande, pour faire des actions qui puissent nuire à autrui, pour faire des activités illégales, mais au contraire, je devrais l'utiliser pour prendre soin des personnes qui souffrent. L'utiliser pour prendre soin des personnes qui en ont besoin. Maintenant, est-ce que la promesse de recevoir cet héritage a été faite parce que j'ai cru en la parole, j'ai eu confiance en ce qu'il m'a dit, ou est-ce qu'elle a été faite par mon engagement à suivre les règles qu'il m'a énoncées par la suite? Mon ami ne m'avait pas dit « tu recevras cet argent parce que tu suis ces règles ». Non, il m'avait dit « crois et suis-moi et tu l'auras. Si tu as confiance en ce que je te dis, tu auras cet héritage ». C'est uniquement par la confiance, et c'est ce que nous dit Paul au verset 14. Si l'on devient héritier par la loi, par les règles, par les régulations, la foi, la confiance dans la promesse initiale que j'avais dans cet ami, elle est complètement dépourvue de sens. Si l'on devient héritier parce que l'on coche toutes les cases du règlement, la confiance dans mon ami est inutile. Je n'ai pas confiance en lui. Cela ne change rien. De la même manière, la promesse qu'il m'a faite au début ne vaut rien. Si jamais il me dit, au final, il faut que tu rajoutes tout ça pour avoir quelque chose, la promesse au début ne vaut rien du tout. Et c'est ce que nous dit Paul ici au verset 14. Si l'on devient héritier par la loi, donc avec les règles, la foi est dépourvue de sens et la promesse au début, elle n'a pas d'effet. La promesse est sans effet. Donc non, la promesse n'a pas été faite parce que l'on respecte chaque ligne d'un règlement. Et au contraire, ce que nous dit Paul, c'est que ce règlement produit la colère. Non seulement le règlement n'ajoute rien à la promesse, mais en plus, il nous l'enlèverait. Parce que ça ne signifie pas que sans les règlements, nous soyons sans la colère de Dieu, nous l'avons déjà. Mais nous sommes encore plus sous le coup de la colère de Dieu. Quand j'étais enfant, quand on est enfant, on a généralement appris de nos parents des principes de base de respect, d'arriver à l'heure. Et je sais que quand je suis à l'école, si je suis ces principes à peu près, le professeur est content, mais si je essaye de ne pas le faire, je suis sous le coup d'une certaine colère. Maintenant, s'il y a une règle précise écrite dans le règlement qui dit très clairement que je ne dois pas boire et manger pendant le cours, mais que malgré tout, un beau jour, je me ramène dans mon cours de maths avec un bucket KFC, très certainement que la colère et la sanction n'en seront que d'autant plus grandes. Et c'est exactement ce que nous dit Paul ici. La loi produit encore plus la colère de Dieu. Aucunement la justice. La chose que la loi t'apporte, c'est une promesse de punition. Parce que nous sommes incapables de l'accomplir totalement. Mais sans la loi, par la foi, sans les régulations que nous pouvons rajouter, nous accédons à la justice. Et nous soyons attentifs à ne pas rajouter la loi. Nous connaissons la tendance à être légalistes. Nous avons lu plus tôt l'exemple de Marthe et Marie. Nous pouvons nous activer dans une ribambelle d'activités et rajouter des règles. Il faut faire ceci, il faut faire cela. Rajouter « ne touche pas, ne bois pas ». Pendant des années, les églises, elles ont été, ont tendance à prôner le faut pas boire d'alcool, pas de jupe, pas de batterie sur l'église, le diable va rentrer dans l'église, à rajouter des règles, des règles, des règles, des règles, à rajouter une régulation. Cela ne change en rien notre justification, c'est par la foi seule. Aujourd'hui, peut-être qu'on aurait tendance à rajouter d'autres règles. Ne t'oppose pas à la liberté de l'autre, mêle-toi de tes propres affaires. On accepte tout, et ça devient presque une règle dans notre pays. Mais En réalité, la foi nous encourage, au travers de l'amour, à reprendre les choses qui nuisent à autrui, à ne pas tout accepter sous couvert de liberté absolue. Veillons à ne pas choisir les versets, les actions qui nous vont bien, à les ériger en loi et à rentrer dans des régulations et à en tirer une certaine fierté. Parce que depuis Abraham, ce n'est pas nouveau, nous sommes uniquement justifiés par la foi et non pas par des règles ou une loi. Nous avons vu déjà trois choses que la foi n'est pas. Ce n'est pas juste faire des actions. Ce n'est pas avoir une religion. Et ce n'est pas des régulations. Suivre uniquement des régulations. Et la quatrième chose que nous voyons à partir du verset 17, c'est que la foi ne veut pas dire hésitation. La foi est une confiance dans l'invisible. Abraham, et c'est incroyable, il y a cet homme a été destiné par Dieu pour être mon père, votre père, il y a des milliers d'années, devant Dieu. Parce que la manière dont il a cru, c'est la manière dont nous croyons. C'est la même foi. Versets 16 à 18. En effet, Abraham est notre père à tous. Comme cela est ailleurs écrit, je t'ai établi père d'un grand nombre de nations. Il est notre père devant Dieu en qui il a cru. Verset 18. Espérant contre toute espérance, Abraham a cru et est ainsi devenu le père d'un grand nombre de nations. Conformément à ce qui lui avait été dit, telle sera ta descendance. Nous sommes la descendance d'Abraham au travers de notre foi. Imaginez Abraham qui vous dit « Je suis ton père ». Quel plan, quelle préparation, des milliers d'années auparavant, Dieu avait ordonné qu'Abraham soit déclaré juste, non pas par rapport à tout ce qu'il faisait, mais par rapport à la foi, pour que, ainsi, des milliers d'années plus tard, des hommes de toutes les nations en France puissent aussi être déclarés justes de la même manière, sans hésitation, pas sur la base de ce qu'ils faisaient, mais uniquement par la confiance en Dieu. Et nous avons cette petite chansonnette pour les enfants. Papa Abraham a beaucoup d'enfants, et je suis l'un d'eux, et vous-même aussi. Peut-être que vous ne la connaissez pas, mais je la chante à l'école du dimanche. Papa Abraham. Cette foi est sans hésitation, et elle est la même. Et c'est celle du verset 17. Il est notre Père devant Dieu, en qui il a cru, le Dieu qui donne la vie aux morts. Et c'est le fondement de cette foi, c'est la nature de cette foi. Il donne la vie aux morts et appelle ce qui n'existe pas à l'existence. Et nous voyons dans ce texte quatre exemples de ce Dieu qui donne la vie aux morts. Verset 19, nous voyons que Dieu, qu'il a eu la foi parce que Dieu a donné la vie malgré le ventre stérile, malgré le ventre mort de Sarah. Sans faiblir dans la foi, il n'a pas considéré que son corps à lui-même était âgé de près de 100 ans, ni que Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants. Abraham était un vieillard, Sarah avait donc le ventre de Sarah était mort en lui-même. Abraham ne l'a pas ignoré, n'a pas ignoré ce fait, mais il y a fait face, il a cru, sans douter, nous dit ce texte, et il a continué à avoir confiance en Dieu et sa promesse. Et nous voyons dans ces lignes une allusion à une autre histoire. Les Juifs ne pouvaient pas louper cette allusion à l'histoire d'Anna, qui était stérile elle aussi, et qui a prié pour avoir un enfant. Et Dieu lui a donné Samuel, qu'elle a consacré à l'Éternel. Et dans sa prière, en Samuel 2, elle dit « Ceux qui étaient rassasiés se louent pour du pain, et ceux qui étaient affamés se reposent. Mais la stérile accouche sept fois, et celle qui avait beaucoup d'enfants devient flétrie. L'Éternel fait mourir, et il fait vivre. Il fait descendre au séjour des morts. » Et il en fait remonter. L'Éternel fait mourir et il fait vivre. Anna, des milliers d'années auparavant, disait déjà également que l'Éternel, Dieu, est celui qui donne la vie aux morts et qui appelle à l'existence ce qui n'existe pas. Dieu a donné la vie dans le ventre stérile de Sarah, d'Anna, et il l'a fait également. Dieu donne la vie également au tombeau mort de Jésus. Le tombeau dans lequel Jésus était mort. Notre foi dans le Dieu qui donne la vie aux morts est similaire à Abraham, comme le dit le verset 23-24. Abraham croyait que Dieu donnerait la vie à Sarah, Et nous croyons que de la mort, Dieu tire Jésus. Verset 23. Or, ce n'est pas pour lui seulement qu'il est écrit que la foi a été portée à son compte, mais c'est aussi pour nous. Elle sera portée à notre compte. Pourquoi ? Puisque nous croyons en celui qui a ressuscité Jésus, notre Seigneur. Le Dieu qui donne la vie aux morts. Sarah, Anna, Jésus. Nous avons la même foi, sans hésitation, dans l'invisible, dans le Dieu qui donne la vie aux morts, qui fait vivre. Et le quatrième exemple qu'on ne peut pas louper, le dernier, c'est celui de la nouvelle naissance. Le Dieu qui donne la vie aux morts et qui appelle à l'existence ce qui n'existe pas. Et nous en sommes, frères et sœurs, ici présents, tous un exemple. Des gens qui étaient morts et qui sont revenus à la vie. Et on lit au verset 25, « Lui qui a été donné à cause de nos fautes et qui est ressuscité à cause de notre justification. » La justification est l'un des aspects de la nouvelle naissance. Dans le Dieu qui fait vivre les femmes, qui donne la vie aux femmes stériles, Sarah, Anna, qui ressuscite Jésus, qui donne la vie et qui nous donne la vie alors que nous étions morts. Comme Abraham, nous avons cette même foi qui ne vacille pas, qui ne doute pas en ce Dieu qui donne la vie aux morts, qui a ressuscité Jésus, qui nous a ressuscités. Et dans cette foi, nous sommes justifiés. Si vous sortiez votre smartphone maintenant et que vous regardez sur votre compte bancaire de la justification, où est-ce que vous en êtes ? Comme Abraham, comme David, comme Paul, comme le brigand sur la croix. Juste, juste, si vous croyez par la foi. Où est notre compteur aujourd'hui ? Peut-être que vous n'avez pas fait cette décision-là, juste de croire par la foi. Autrement dit, au travers de ce chapitre 4, Paul répond à cette question du verset 31, et c'est ma conclusion. Cela signifie-t-il donc que par l'intermédiaire de la foi, nous annulions la loi ? Certainement pas. Au contraire, nous confirmons la loi. La loi et les prophètes, 2000 ans avant, c'était déjà la foi. Il n'y a pas de plan B. Le plan A, ça a toujours été la foi. Depuis Abraham, rien de nouveau. Par la foi, en devenant chrétien, nous confirmons la foi. Alors, qu'en est-il de votre foi ? Sommes-nous fiers de nos actions ? Est-ce que nous cherchons notre justice dans nos actions ? Sommes-nous confiants dans notre position, dans notre religion ? Cherchons-nous à ajouter des régulations, des règles, des lois dans notre vie chrétienne ? Et est-ce que notre cœur regarde aux réalités visibles avec hésitation ? Ou bien avons-nous pleinement confiance en Jésus-Christ ? Depuis toujours, nous sommes déclarés justes par la foi seule, sans aucune de ces choses, rien que la foi. Et c'est le bonheur. Dernière. Finir là-dessus. David exprime le bonheur de l'homme à qui Dieu attribue la justice sans les œuvres. Quel bonheur. Est-ce qu'au retour du Seigneur, on dira de moi ou de toi, Clément a eu confiance en l'Éternel et cela lui a été compté comme justice. Prions. Seigneur, je suis infiniment reconnaissant. Quel bonheur de savoir que ce n'est pas selon ce que je suis, ce que j'ai fait la semaine passée et ce que je ferai à l'avenir que je peux être justifié devant toi et par la foi seule. Et tu l'as voulu ainsi. Déjà au temps d'Abraham, tu l'as voulu ainsi. Père, je prie vraiment que nous puissions savourer cela, que nous puissions savourer cette foi, te glorifier pour cette foi simple, cette justification juste par la foi, rien d'autre. Et Seigneur, garde-nous d'en rajouter quoi que ce soit, de nous tromper par des mensonges, de vraiment de garder la foi au centre, Seigneur. Que dans ton Église, la justification par la foi seule soit la seule chose qui demeure, que rien d'autre ne soit rajouté dans cette Église. Dans le nom de Jésus. Amen.